Extrait des chroniques du hors-temps. Le long escalier. Au début de la grande crise, avant que l'enthousiasme des sociétés humaines ne soit étouffé par le grand ravin, une série d'entreprises mobilisant des ressources en provenance de la Terre entière avait été engagée pour défendre le système solaire. Ces chantiers titanesques avaient atteint, et pour certains d'entre eux dépassé, les limites technologiques de leur temps. Parmi eux, certains étaient entrés dans l'histoire. L'ascenseur spatial, les bombes nucléaires à puissance stellaire testées sur Mercure ou les avancées en matière de fusion nucléaire contrôlée. Ces projets avaient posé les bases de l'envolée technologique qui s'était profilée après le Grand Ravin. Mais il n'en était pas de même pour le programme Escalier. Il était passé aux oubliettes avant même le début du Grand Ravin. Pour les historiens, ce programme avait été le produit typique de la frénésie et de la précipitation du début de la grande crise. Il avait constitué un risque impulsif et irréfléchi. Non seulement il s'était soldé par un échec total, mais il n'avait rien laissé de valeur sur le plan technologique, car les technologies de navigation s'étaient plus tard développées dans une toute autre direction. Personne n'aurait imaginé que près de 3 siècles plus tard, le programme Escalier apporterait un rayon d'espoir à une civilisation terrienne cernée par les ténèbres. Comment la sonde qui transportait le cerveau de Yun Tianming avait-elle été interceptée par Trisolaris? Cela resterait sans doute pour toujours une énigme. Un des haubans de l'appareil s'était rompu près de l'orbite de Jupiter et il avait dévié de sa trajectoire prévue. La Terre avait perdu ses coordonnées orbitales et il s'était égaré dans l'immensité de l'espace. Mais les Trisolariens avaient tout de même réussi à l'intercepter. Ils avaient probablement réussi à obtenir les paramètres de sa navigation au moment de la rupture du hauban, car même pour une civilisation aussi avancée technologiquement, il aurait été impossible de retrouver un objet aussi minuscule dans l'espace intersidéral. L'hypothèse la plus probable était qu'après le départ de la sonde, celle-ci avait été suivie, au moins dans sa phase d'accélération, par un intellectron qui avait pu recueillir ses paramètres de vol. Mais il était difficile de croire que l'intellectron ait suivi l'appareil tout au long de sa lente odyssée. La sonde avait franchi la ceinture de Kuiper, puis le nuage d'Oort. Dans ces régions, elle aurait pu être ralentie, voire déviée à cause de la poussière interstellaire située sur son passage. Toutefois, cela semblait ne pas s'être produit, car le monde trisolarien n'aurait jamais dans ce cas pu prendre connaissance de ces nouvelles coordonnées de navigation. Ainsi, l'appareil du programme Escalier devait probablement sa capture à une large part de chance. Il était à peu près sûr que le vaisseau ayant intercepté la sonde appartenait à la première flotte trisolarienne. En ce temps-là, un vaisseau n'avait en effet pas décéléré, et avait été envoyé en éclaireur afin d'arriver dans le système solaire 1 siècle et demi avant le reste de l'armada. Toutefois, sa vitesse aurait été si grande qu'il n'aurait pas pu ralentir à temps et aurait traversé le système solaire sans pouvoir s'arrêter. Le but de cette manœuvre avait toujours été un mystère. Après l'établissement de la dissuasion de la forêt sombre, cet appareil, tout comme l'intégralité de la première flotte, avait néanmoins changé de direction. La Terre n'avait jamais pu déterminer avec certitude les nouveaux paramètres de navigation de ce vaisseau. Mais si ceux-ci étaient les mêmes que ceux de la première flotte, il avait pu croiser la sonde du programme Escalier. Bien entendu, même si cette rencontre avait bien eu lieu, la distance entre les deux appareils avait été énorme. Si le vaisseau trisolarien n'avait pas eu en sa possession les coordonnées orbitales de la sonde, il n'aurait pas pu la localiser. Un calcul grossier estimait la date de l'interception de l'appareil à 30 ou 50 ans en arrière. Elle ne pouvait de toute façon pas avoir été antérieure à l'ère de la dissuasion. La volonté des trisolariens de capturer l'appareil était compréhensible. Jusqu'à la fin, le seul contact direct entre humains et trisolariens s'était limité à celui des gouttelettes. Obtenir un spécimen humain vivant devait être pour eux particulièrement excitant. Yun Tianming était à présent très probablement à bord de la première flotte trisolarienne, dont la majorité des vaisseaux faisait maintenant cap vers Sirius. on ne détenait aucune information sur les conditions dans lesquelles Yun Tianming se trouvait. Son cerveau était-il maintenu en vie de façon autonome ou l'avait-on transplanté dans le corps d'un clone? Mais c'était surtout une autre question qui passionnait les foules. Yun Tianming travaillait-il toujours aux intérêts de l'humanité? Cette inquiétude n'était pas irrationnelle. Si sa requête de parler à Cheng Xin avait été acceptée, cela signifiait qu'il avait réussi à s'intégrer au monde trisolarien. Peut-être même y bénéficiait-il d'un statut important. La question qui en résultait était terrifiante. Avait-il participé à l'histoire après le début de l'ère de la dissuasion? Avait-il quelque chose à voir avec tout ce qui s'était passé depuis un demi-siècle entre les deux mondes? Dans tous les cas, Yun Tianming réapparaissait à un moment crucial pour l'humanité. Et il était porteur d'un espoir réel. Quand cette nouvelle fut rendue publique, la première réaction des peuples fut de croire que leur prière avait été exaucée. Ils allaient assister à l'avènement du Sauveur.